le trèfle écailleux. Avec ce nom, on imagine une plante couverte d'écailles, argentée, comme un poisson. Il n'en est rien. Ce trèfle a porté différents noms dans le temps. Trèfle squameux, trèfle squareux ou encore trèfle maritime, car poussant près des côtes, en prairie humide, un peu minéralisée, salée, on le dit donc allophile, qui aime le sel. Mais le trèfle écailleux pousse également en plaine, près de Toulouse, entre Atlantique et Méditerranée, loin des marais salés. Partons ainsi à la découverte de cette espèce fragile. C'est le nouveau sujet que je vous propose de découvrir dans cette nouvelle émission Urbaflore.
Salut Jérôme.
Bonjour Lisa, bonjour à tous.
Jérôme Garcia qui anime chaque mois cette émission Urbaflore, c'est l'émission du Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi Pyrénées. Aujourd'hui donc, autour du trèfle écailleux, étymologie.
Alors le nom latin du trèfle écailleux, c'est Trifolium squamosum. Trifolium, on comprend que ça veut dire trois feuilles, hein, ça vient du latin, tri, trois, et folium, la feuille. C'est lié au nombre de folioles, en fait, que possède chaque feuille. Et squamosum, ça vient du latin squama, et ça veut dire écaille. C'est lié à l'apparence que prend le fruit une fois que les fleurs qui sont regroupées en tête ont fini de fleurir et ont fané, quoi.
Une émission spéciale consacrée entièrement à ce trèfle écailleux. Quelles sont ses particularités biologiques ?
Alors, c'est une espèce dicotylédone. C'est-à-dire qu'à la germination, les premières feuilles qui sortent sont au nombre de deux par rapport aux monocotylédones, où il n'y a qu'une seule feuille qui sort à la germination. Les monocotylédones, c'est tout ce qui est graminées, plantes herbacées. Le bananier aussi est une monocotylédone, par exemple. Les orchidées. Et pour le trèfle écailleux, donc, on a deux feuilles qui sortent à la germination. Donc, c'est une dicotylédone. Cette espèce, elle fait partie de la famille des fabacées, au même titre que le haricot, le petit pois, le soja, la fève, la luzerne ou le robinier faux acacia. Et une des particularités du trèfle écailleux, comme toutes les fabacées, c'est qu'au niveau des racines, on a ce qu'on appelle des nodosités qui sont formées et qui abritent des rhizobiums. Les rhizobiums, ce sont des bactéries qui sont symbiotiques et qui fixent l'azote de l'air. J'ai pu en parler dans d'autres émissions.
Oui.
Et ces nodosités, pardon, elles permettent au trèfle de se développer dans des sols pauvres en matière azotée. Et d'une certaine façon, grâce à ces bactéries, le trèfle écailleux produit son propre engrais. Cette plante aussi est une plante herbacée, c'est-à-dire qui n'est pas ligneuse. Il n'y a pas de lignine dans ses tissus. C'est une plante qui va rester verte en fait toute sa vie. Et sa particularité, c'est qu'elle est annuelle. On dit qu'elle est térophyte. Elle va faire son cycle de vie sur un an. Donc elle va germer, croître, fleurir. Ensuite, elle va faner et on ne voit plus du tout l'espèce courant de l'été, par exemple, et une partie de l'hiver, jusqu'à ce qu'elle regerme. Enfin, elle regerme jusqu'à ce que ses descendants, jusqu'à ce que ses graines germent. Voilà, donc c'est un cycle de vie sur un an. La germination des graines, elle est très dépendante des conditions météo, des conditions de gestion aussi de l'habitat dans lequel elle pousse. C'est une plante qui va mesurer 10 à 40 cm de haut et chaque pied va produire à sa base plusieurs tiges. Elle possède des feuilles alternes, c'est-à-dire qui sont à différents niveaux de la tige. Et celles qui sont juste sous l'inflorescence, par contre, sont opposées, c'est-à-dire qu'elles se font face sur la tige. Les feuilles, comme je l'ai déjà indiqué, sont composées de trois folioles qui sont de forme ovale, qui sont velues sur les deux faces ou seulement sous la nervure principale. L'espèce, elle produit des fleurs blanches, arrosées, qui vont apparaître de mai à début juin. Elles sont groupées dans une inflorescence solitaire, hein, que j'ai appelée tête tout à l'heure, à l'extrémité d'un court pédoncule floral. Et par inflorescence, on peut compter de 30 à 50 fleurs. Le calice, hein, qui correspond à l'ensemble des sépales, forme un espèce de tube denté qui va entourer la base de la corolle. Le calice, les sépales, hein, c'est en général dans les parties florales, les parties qui sont le plus à l'extérieur, c'est les parties qui sont vertes. Et Donc elles vont entourer la base de la corolle, et la corolle c'est donc l'ensemble des pétales, et les pétales sont colorés, comme je l'ai indiqué, rose ou blanc. La plante, elle possède, chaque fleur pardon, possède 5 pétales, qui a chacun de ces pétales porte un petit nom. Donc du sommet à la base, on a d'abord l'étendard, ensuite on a deux ailes qui sont latérales, et tout en dessous, les pétales inférieurs sont soudés et forment ce qu'on appelle la carène. Après la pollinisation, l'inflorescence va former ce qu'on appelle une infrutescence, c'est-à-dire un ensemble de fruits qui sont regroupés. Et dans chaque fruit, on va retrouver seulement une graine. Dans le haricot, quand on a la gousse, on va trouver beaucoup plus de graines. Et là, chez le trèfle écailleux, on ne va trouver qu'une seule graine. Cette graine, elle est entourée du calice, qui est sec, et qui va donner à la plante cet aspect écailleux et même piquant. Voilà, une fois mûr, les fruits vont tomber au sol, c'est ce qu'on appelle de la barocorie, et la plante, en parallèle, va sécher et mourir, et elle n'est plus visible en plein été.
Et alors, pour une espèce halophile, qui donc aime le sel, est-ce qu'on peut parler de son habitat et de ses menaces en Midi-Pyrénées ?
Oui, alors en Midi-Pyrénées, du coup, l'espèce, on ne va pas la retrouver dans des milieux salés, parce qu'il n'y a pas ni d'océan ni mer. C'est un peu particulier, mais on va la retrouver en tout cas dans des prairies qui sont humides. On appelle ces prairies des prairies mésohygrophiles. C'est des prairies qui sont fauchées une à deux fois par an. La première fauche a lieu en général en mai-juin. On va la retrouver aussi sur des bords de cours d'eau ou des dépressions humides de la plaine à l'étage collinéen. Et ces prairies, elles vont passer une période de l'année les pieds dans l'eau, ce qui est une caractéristique et fondamentale dans le fonctionnement de ces habitats. Au niveau du caractère riche de ces prairies, c'est pas très très riche en éléments nutritifs. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, de toute façon le trèfle il fait son propre engrais à base d'azote. On va retrouver aussi cette espèce dans des prairies pâturées ou piétinées, et certaines de ces prairies peuvent aussi accueillir une flore originale avec d'autres espèces protégées comme la jacinthe de Rome. L'espèce apprécie du coup, comme j'ai pu le dire, des contrastes hydriques, c'est-à-dire des différences d'humidité d'une période à l'autre de l'année. L'espèce, elle va apprécier aussi parfois des perturbations qui ont pour effet de mettre à nu plus ou moins le sol, de favoriser une faible densité de végétation, ce qui fait que on a une faible concurrence, et cette espèce annuelle, ça va l'aider à germer dans ces conditions-là. Voilà. Après, ça reste des choses qui sont encore à étudier. J'y reviendrai un petit peu plus tard. C'est une espèce qui est, du coup, dans des prairies humides ou dans des prairies pâturées, et qui est menacée par un changement de pratique agricole. Ça peut être la mise en culture, ça peut être de la déprise agricole, c'est-à-dire l'abandon des prairies, la fermeture du milieu. On peut aussi avoir des fauches précoces et répétées qui ne sont pas favorables à l'espèce, et encore moins tout ce qui est drainage, hein, puisque j'ai expliqué que l'eau était un facteur important pour cette espèce. À partir du moment où on draine, on va modifier le milieu, modifier les conditions hydriques, et cette espèce peut disparaître. Et enfin, des éléments beaucoup plus problématiques sont l'urbanisation et le changement climatique.
Et Jérôme, pourquoi on parle du trèfle écailleux dans cette émission Urbaflore aujourd'hui ?
Parce que cette espèce, elle est protégée aussi. Elle est actuellement protégée en Midi-Pyrénées, selon un arrêté ministériel qui date du 30 décembre 2004, pour être très précis. Et pour Urbaflore, l'espèce, elle fait partie des 170 taxons prioritaires du programme. Et elle est représentée en Midi-Pyrénées uniquement par 52 populations sur les grandes aires urbaines, encore une fois, sur un total de 4500 populations. Donc c'est 1% à peu près des populations à surveiller dans le cadre d'Urbaflore, qui sont des populations de trèfle écailleux. Donc c'est des populations, comme vous l'avez compris, qui sont peu nombreuses en ex-Midi-Pyrénées. Et en général, on va les découvrir en même temps que des études d'impact pour des aménagements. Donc c'est plutôt problématique, parce qu'elles sont vouées à être perturbées, voire détruites, est compensée. Ça génère du coup une forte pression sur l'espèce et sur son habitat. Faut savoir que dans le cadre d'Urbaflore, c'est une espèce aussi qui a fait l'objet de collectes de graines pour mieux étudier ses conditions de germination. C'est une espèce qui germe très bien après qu'on ait gratté la graine, après qu'on ait fait ce qu'on appelle une scarification et après un passage au froid. Voilà, c'est des bonnes conditions pour la faire germer. Mais il reste de nombreuses questions qui sont posées sur la connaissance de cette espèce, sur sa répartition, son mode de dispersion, ses modalités, les modalités de gestion qui lui sont favorables et par rapport à l'impact de risques répétés sur les populations de cette espèce et parfois des populations qu'on ne connaît pas encore. Donc voilà, il y a un ensemble d'études qui est indispensable pour répondre à ces questions-là. Et il y a un an, deux ans, j'ai rédigé, dans le cadre d'un arrêté préfectoral en faveur d'un projet réalisé par Airbus, qui avait un impact sur cette espèce, j'ai rédigé un plan local d'action sur la région toulousaine pour essayer de mieux comprendre le trèfle, son habitat, les menaces et la gestion favorable. Et cette année, donc 2026, je vais participer à une étude génétique sur le trèfle écailleux. C'est un peu pour ça aussi que je voulais le mettre en avant pour cette émission. L'espèce, elle est présente selon un axe Bordeaux-Perpignan. Donc elle est à la fois sur la côte atlantique et la côte méditerranéenne, avec des populations toulousaines qui sont intermédiaires. L'intérêt, c'est de voir si les populations toulousaines ont un rôle intermédiaire entre ces populations d'un littoral à l'autre, quoi. Voir si elle joue un rôle dans la diversité génétique et s'il y a des échanges génétiques entre toutes ces populations. Donc c'est super intéressant. Et ça va consister pour ma part là, à aller collecter côté atlantique et toulousain des feuilles de cette espèce. Donc je serai dans les prairies humides halophiles et des plaines toulousaines courant mai pour aller collecter les feuilles de cette plante. Voilà, mais ceci est une autre histoire. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivie. J'espère qu'elle vous aura permis de découvrir une nouvelle plante protégée, qu'elle vous aura aussi donné le goût de l'écoute des émissions passées et à venir, mais surtout qu'elle participera à la découverte et à l'émerveillement du monde qui croise votre regard tous les jours. On se dit donc au mois prochain avec un nouveau sujet qui, j'espère, vous animera. D'ici là, ouvrez l'œil, restez curieux, critique et constructif, posez-vous des questions et partagez-les.
Et partagez-les via le site cfmradio.fr. Si vous en avez des questions, Jérôme pourra probablement y répondre à cette émission autour de la botanique, donc l'émission du Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, l'émission Urbaflore. Jérôme Garcia y est chargé de conservation. On se retrouve le mois prochain. Salut Jérôme.
Salut Lisa, au revoir à tous. Merci.